RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux. En route pour le stade, bien calé au fond de votre canapé ou en train de faire votre footing avant d'aller encourager votre équipe, on vous accompagne pendant une petite heure pour vous présenter tous les enjeux de cette 20e journée de Top 14. Et focus aujourd'hui sur ce qui s'annonçait comme étant le choc du week-end, Toulouse-Montpellier, et sur une autre affiche, Perpignan-Toulon, qui pourrait être le match de la dernière chance pour les Toulonnais. Et pour vous présenter cette 20e journée, rien de mieux que de faire appel au taulier de cette émission, ou plutôt au pilier de bar, cette circonstance. Julien Landré et Wilfried Templier m'accompagnent.
Je ne sais pas pour qui s'adresse cette
petite toilette, Julien. Hein.
Je ne me sens pas du tout concerné.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, avant de démarrer, on va faire un petit point sur le programme de cette 20e journée. Ce week-end de Top 14 démarrera par Toulouse-Montpellier à 14h30 ce samedi. À 16h35, le multiplex dans lequel on retrouvera Castres-Montauban, Lyon-UBB, Poracing, Perpignan-Toulon. L'affiche du samedi soir 21h, ça sera Bayonne face à La Rochelle à Anoeta. Et le choc du dimanche soir opposera le Stade français à Clermont à 21h05. Petit point classement, Toulouse toujours en tête avec 67 points et compte 10 points d'avance même sur son dauphin montpelliérain. Pau est troisième à égalité de points avec l'UBB, c'est-à-dire 55. Le Stade français et Clermont complètent le top 6. Derrière, on retrouve le Racing en 7e position, suivi de La Rochelle, Toulon, Lyon, Castres et Bayonne. Et enfin, Perpignan, 13e avec 19 points. Et Montauban, dernier, avec toujours ses 7 petits points au compteur. Voilà, ça c'était pour le contexte. Maintenant, on va s'intéresser aux deux affiches les plus intéressantes peut-être du week-end. On commence, messieurs, par Toulouse-Montpellier, du moins, c'est ce qu'on pensait, que ça allait être l'affiche la plus intéressante du week-end.
Non, on passe.
Mais Wilfried, Julien, pour le coup, vous êtes tous les deux concernés, vu que ce sont vos deux équipes, ça sera un peu moins folichon que ce à quoi on s'attendait.
Bah ouais, alors j'ai une discussion avec, dans les coulisses avec on va dire Adrien, qui s'occupe de la communication au Stade Toulousain. Je le salue, d'ailleurs, on passe les années ensemble et on échange pas mal.
On écoute souvent beaucoup en plus, non?
J'espère. Et bah, lui, moi j'ai un problème avec ça. Ça arrive souvent dans le top 14. Hein. Moi je me régalais, je me disais, Toulouse-Montpellier, samedi 14h30. En plus c'est pas mal hein, pour les suiveurs du Stade Toulousain, pour les spectateurs à chaque fois. Ils se tapent souvent les matchs à 21h, dans le froid, dans la nuit. Et là, 14h30, superbe. Même si bon, le temps ne va pas être trop de la partie. On se disait, Montpellier, l'équipe en forme, la dynamique qui arrive, l'équipe qui fait peur, qui impressionne, qui tabasse tout le monde devant. Eh bien ça va être un test pour Toulouse à une semaine de la Coupe d'Or. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas match, ne dis pas ça. Mais... Julien, quand on est spectateur, quand on est suiveur, quand on est téléspectateur, on a envie de voir Nouchi, on a envie de voir Vunipola, on a envie de voir les gros joueurs montpelliérains, les Vérag qui prend tout en touche,
les blessés.
Ouais, ok.
Oui. Nouchi est en vacances.
D'accord, ouais, Nouchi est en vacances. On a envie de voir de la puissance donc Patin et du guide, de se dire waouh, ils font peur à tout le monde, ils gagnent partout. Mais il n'y a qu'un seul survivant. Il n'y a qu'un seul survivant dans le 15 de départ des victorieux de Clermont, c'est Alexandre Béconnier. Donc, alors c'est arrivé, Roxane, par le passé, qu'on se plaigne. Et qui est match, et qui est même des... Voilà, j'ai le souvenir, on en a déjà parlé, de ce UB, Toulouse-UBB, où il y a eu des débats sur l'antenne d'RMC. Est-ce que l'UBB respecte le top 14 et, voilà, parce qu'ils avaient mis 4-5 jours au repos important derrière. Et bam, ils avaient gagné à Toulouse. Bon, ils peuvent gagner à Toulouse, après... je c'est pas ce que je dis. Mais bon, on va vous parler des
contrario,
stades toulousains à domicile.
Tu n'as pas tenu ce
contrario,
là,
Julien,
dernière,
il va te
Toulouse
dire...
Quand Toulouse allait à Bordeaux, voilà. Tu n'étais pas plein. Que les
mais quand Toulouse fait tourner, c'est pas pareil, Julien. Mais t'as vu l'effectif qu'ils ont, c'est pas pareil.
Je sais pas.
Non,
t'as
mais après,
Bordeaux,
t'as
Bovaca. À Bordeaux, ils avaient peut-être envie de voir Dupont, ils avaient peut-être envie de voir Ramos, et ils ont pas vu, et on s'est pas plein.
Et Julien te dira aussi que Pau s'est déplacé avec la grosse équipe et a pris 40 points, 50 points dans la musette.
Oui, mais...
8 internationaux, mais on peut lire sur la pelouse. Erdosio, Awas, Bird, Chaluro, Massibaka, Colli, Picardo, Vincent. Mais effectivement, c'est pas l'équipe qui a pris 38 points sur les 50 derniers, qui a marqué autant de points d'ailleurs que le Stade Toulousain depuis le mois de novembre. C'est les deux équipes qui marchent le mieux. 8 victoires, 2 défaites. 2 défaites bonifiées pour les Montpelliérains. Mais c'est vrai que Joan Codulo, il est dans la gestion aujourd'hui. Il se dit que
Il y a un bloc de challenge européen.
Non, mais il y a un bloc de. Non, mais il y a potentiellement un bloc de 12 matchs qui se présente au Montpellier 1, s'ils vont jusqu'au bout en challenge et jusqu'au bout en top 14, et qu'aujourd'hui, il a besoin de voir si un Picardo, si un Erdosio, si un Adam Bird peuvent concurrencer les Toulousains. Mais je suis évidemment.
Il peut mettre d'autres sur le banc aussi, hein. C'est pas interdit.
Je suis d'accord avec toi qu'évidemment, on aurait aimé voir les vrais Montpellierains, la grosse équipe des Montpellierains. Le problème, c'est que Toulouse, c'est 49 points, tu vas les dire, mais les statistiques de Toulouse à domicile n'incitent pas confiance pour les adversaires. Et que
mais alors, c'est pourquoi qu'on fait tourner Julien.
10 victoires, 9 bonus offensifs.
C'est pourquoi qu'on fait tourner Julien à Montpellier. C'est pour éviter que ça fasse mal à la tête et qu'on se dise, purée, on en a après, pris sais, après, 49
purée.
À Toulouse. Purée, oui. je reste c'est, poli, moi.
C'est toujours pareil. Quand tu vois les danses que prennent toutes les équipes au stade toulousain, Wilfried disait tout à l'heure, je crois que c'est 48-12 le score moyen des équipes qui gagnent.
48-16.
Ou 48-16. Oui, je pense qu'il vaut mieux prendre 50 points avec ton équipe B que 40 avec ton équipe première, peut-être.
Mais après, même c'est si toujours le débat aussi. Joanne... Est-ce que
non, mais j'ai posé la question à Johan Codulo cette semaine. Il dit non, pas question, on n'a pas peur de ça. Qu'on ait gagné ou perdu à Clermont, j'aurais fait la même équipe à Toulouse. On n'est pas forcément obligé de le croire, évidemment. Mais oui, après, voilà, Montpellier. Après, moi, je pense que c'est un vrai test pour les Montpellierains, qui, je le disais, ont aujourd'hui perdu que 6 matchs cette saison. Et excepté la défaite au Stade français, ils ont perdu en moyenne de 4,5 points cette saison à l'extérieur sur leur défaite. Donc, ils se sont toujours accrochés partout.
Trois victoires, trois bonus défensifs en 9 matchs.
Ouais, on va voir s'ils sont capables de s'accrocher à Toulouse. Quand on voit l'équipe, c'est une équipe qui va manquer de temps de jeu. Autant devant, je ne suis pas trop inquiet sur la densité que les Montpellierains vont pouvoir mettre face aux Toulousains. C'est derrière où c'est un peu plus léger, avec Thomas Vincent à l'ouverture qui n'a pas beaucoup joué, le jeune Melvin Rates sur une aile, Picardo au centre qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, je pense que le banc fera probablement la différence. Quand Montpellier va faire rentrer Alexis Bernardet et que Toulouse va faire rentrer Antoine Dupont, bon, évidemment... ça ne va pas avoir la même influence, notamment sur l'équipe.
Oui, mais c'est aussi le débat qu'on a à chaque fois et on n'a jamais vraiment la réponse. Mais est-ce que dans ces moments-là, tu ne mets pas la vraie équipe, la grosse équipe, en te disant que c'est quand même le moyen de te jauger face à ce qui se fait de mieux dans le championnat, ou tu fais tourner pour essayer de préserver tout le monde?
Après, toujours la section paloise.
Non, mais après, on fait paloise. Leur place,
la section paloise, depuis qu'ils ont perdu à Toulouse,
leur saison. Oui.
Pau est dans le jeu depuis qu'ils ont perdu à Toulouse. Non, mais oui, mais est-ce que ça n'a pas fait mal au...
Donc, ce qu'on veut pas, c'est envoyer une spirale positive.
Ouais, écoute, pour revenir à ma discussion avec Adrien, lui disait... mais moi, je les comprends aussi, des managers comme lui, mais peut-être que le Toulouse-Montpellier, on le verra en phase finale et tout. Mm. On a envie de voir des matchs toute l'année. On fait 9 mois de saison, ou alors on attend le mois de juin, nous, on ne commande pas les matchs et on fait que les matchs de phase finale. Quand il fait beau, voilà. Et voilà.
Qu'est-ce que tu ferais le reste de l'année, Wilfried?
C'est vrai.
mais je pense qu'après, Wilfried, il faudrait en parler avec le manager, mais je pense qu'il y a aussi un... Aujourd'hui, tout est tellement étudié, tout est tellement secret. Peut-être que Montpellier a prévu quelque chose pour contrer les Toulousains et qu'ils n'ont pas envie de le montrer là et ils ont envie d'attendre plus tard. Non, mais c'est pour gagner la finale
top 14 qu'ils font ça.
Non, mais évidemment qu'il y a peu de chance, mais il y a peut-être aussi cette possibilité de se cacher. Non, c'est ce que je dis, pas une info, c'est des suppositions. Okay. Mais voilà, ça fait peut-être partie aussi de la stratégie. Après, c'est toujours pareil. Montpellier, aujourd'hui, ils ont rattrapé leurs deux défaites à domicile du début de saison contre Toulon et contre Clermont. Ils ont gagné 3 fois à l'extérieur. Ils sont dans les clous de ce fameux classement britannique dont Bernard Laporte les a matrixés, je pense, depuis le début de la saison où il leur parle que de ça.
Et puis, ils viennent aujourd'hui, de gagner à Clermont.
Ils sont aujourd'hui 4e au classement britannique.
À La Rochelle et à Clermont, ils viennent de gagner 2 fois de suite à l'extérieur.
C'est ça. Ils sont 4e au classement britannique. Donc, ils savent aujourd'hui qu'ils vont recevoir Perpignan et Montauban à domicile sur les matchs qui restent. Et ils se disent qu'ils ont peut-être fait le nécessaire et qu'ils ont peut-être plus de chances d'aller gagner à Castres, par exemple, qu'à Toulouse avec la meilleure équipe. C'est peut-être ce que se dit Johan Codulo. Ou à Lyon. Et peut-être qu'ils se trompent. Mais en tout cas, dans leur réflexion, c'est peut-être ça ce qu'ils se disent aujourd'hui.
Les Toulousains font renoncer leurs adversaires avant. J'ai vécu ça avec Toulon qui est 2 années de suite. Et là, Toulon, de mémoire, à l'automne, ils venaient un dimanche soir. Il me semble que c'était au Stadium d'ailleurs. Et le samedi, ils jouaient contre Lyon à domicile. Ils ont complètement transformé l'équipe. Ils ont pris 60 ou 70. C'est arrivé avec Clermont l'année dernière. Ou, comme tu dis, les managers disent moi, je vais voir ce que les autres ont dans le ventre un petit peu et on va les mettre sur le gris et voilà.
Et comment on perd
Toulouse
ça,
a pu faire ça à une année. Moi, je me rappelle à l'époque où Verne Cotter était entraîneur de Montpellier, où ils avaient fait la finale du top 14 et qu'ils avaient roulé sur tout le monde toute la saison. Ils en mettaient 60 toute la saison à Montpellier. Et le Stade toulousain était arrivé en 2019 avec des jeunes joueurs, des très jeunes joueurs.
Tout début de saison.
Julien Marchand, Thomas Ramos, Mathis Lebel, Romain Tamac. Ils en avaient pris 60. On ne connaissait aucun des joueurs.
Ouais. Et aujourd'hui, non, c'est en 18-19. Hein.
Ouais, c'est ça. Ils avaient fini champion de France. Tu vois où sont tous les Toulousains. Exactement.
Non, mais ils avaient fini champion de France cette année-là. Ils font une année exceptionnelle. Ouais. Et je me souviens de la déroute de plus de 50 points, effectivement.
Mmh. Avec tous ces jeunes Toulousains que Mola avait lancé ce jour-là.
Si ça peut donner 5 boucliers et 2 Coupes d'Europe à Montpellier sur les prochaines années. Écoute, pourquoi pas.
Non, il y aura moins de jeunes. Là, je me rappelle ce jour-là d'avoir commenté le match en me disant « Mais c'est qui tous ces joueurs que Toulouse vient de nous mettre sur la pelouse ?» J'en connaissais pas beaucoup. Mais tu les vois... Presque 10 ans plus tard, c'est les 4 de l'équipe de France.
Et Roxane, tu voulais savoir comment c'était pris à Toulouse ?
Ouais, comment c'était perçu à Toulouse ?
Eh bien, si on écoutait Paul Coste.
Je ne suis pas dans la tête des autres coachs d'un point de vue résultat. C'est vrai que quand on va dans des très grosses écuries, on se dit que c'est peut-être le moment de reposer certains joueurs. Là, ils sont sur une période qui est quand même très positive, donc peut-être qu'ils veulent aussi garder ce momentum. Certaines équipes, mot lâché, un peu pessimiste, mais je dirais qu'ils essaient de provoquer autre chose pour reposer leurs très gros joueurs. Maintenant, nous, ça ne change pas du tout notre manière d'appréhender le match. C'est peut-être limite encore plus dur parce qu'on a affaire à des joueurs qui ne sont pas exposés tous les week-ends et dont on ne connaît pas les qualités qui peuvent être évidentes sur certains. Pas de focus là-dessus, mais je verrai la compo et on en parlera plus tard.
Voilà, font ce qu'ils veulent.
Oui, ça change pas grand-chose à leur préparation au final.
Ah non, mais ils peuvent pas rentrer là-dedans. Mais
non, mais après ils peuvent être déçus aussi de pas affronter d'autres équipes. Bon, après de toute façon ils savent qu'ils leur roulent dessus quoi qu'il arrive. Donc
pas quoi qu'il arrive. Enfin, moi cette année oui, c'est quand même. 10 matchs, 10 victoires, 2 bonus offensifs. Et voilà, les seuls qui ont été sous les 30 points, c'est le Stade français, 29-17. Victoire de Toulouse 29-17. Donc
On n'oublie pas Perpignan qui avait résisté.
C'est vrai.
Et on se rappelle d'ailleurs Hugo Mola après. Alors ils en avaient pris 30 l'USAP ce jour-là. Ils n'avaient pas pris un gros score. On se rappelle surtout la sortie d'Hugo Mola après match. Mais les Catalans aussi avaient résisté à une époque où ils étaient vraiment dans le fond du fait tout.
Messieurs, est-ce qu'on a les compos complètes? Vous avez donné quelques noms, mais est-ce qu'on les a au total? Vas-y Wilfried pour Toulouse.
Alors Toulouse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, 7, 8, 9, 10, 10 changements par rapport à Bordeaux, mais ça ne fait pas pareil quand ça change. Première ligne, Eynou, Cramon, Merclair. Deuxième ligne, Flamand, Méafou. Troisième ligne, Banos, Brennan, qui entoure Anthony Gelonge, qui sera en 8 et capitaine. Charnière, ça ne bouge pas, Graou, Tamac. Au centre, Chocobares, Coste. À une aile, Lebel. À l'autre aile, Kinghorn. Et à l'arrière, Thomas Ramos, sur le banc, Lacombe, Baye, Verger, Théo Ntamack, Willis, Dupont, Teddy Thomas et le grand chouchou de Julien, Dorian Aldeguer.
Elle était potable la semaine dernière, tu nous avais dit, elle est comment cette semaine l'équipe?
Elle est pas mal.
Elle est pas mal, c'est potable, pas mal.
Elle est pas mal, bon, on verra ce que ça donne.
Quelle insolence.
Est-ce que Julien tous les fait? Vas-y Julien. Je les donne.
Allez, Baptiste Erdossio qui va retrouver une place de titulaire, lui qui s'est fait prendre la place par Enzo Forletta, Ricky Riccitelli, Momo Awas, Adam Bird, Bastien Chalureau en deuxième ligne, Marco Tolaigne, Béconnier qui vont encadrer Alex Massibaka, Léo Colli, Thomas Vincent à la charnière, Melvin Rates, Donovan Taufi Fenoua sur les ailes, Picardo Vincent au centre, Echegaray, le joueur prêté par l'UBB, à l'arrière, qui va connaître sa première titularisation et sa première feuille de match, même avec les Montpellier. Hein. Akrab, Abouladze, Oulia, Camara, qui fait son retour à la compétition, Bernadet, Martin, Darmon, Valentin Welch sur le banc.
Voilà, très bien. C'est une affiche donc à 14h30 qui sera évidemment à suivre sur RMC avec toi, Wilfried. Autre match qui nous intéresse, Julien, et que tu auras le plaisir de commenter, c'est Perpignan-Toulon, 16h35 dans le multiplex samedi après-midi. Ce match, c'est un peu malheur aux perdants, je dirais, non ?
Ouais, non, alors malheur pas pour l'USAP. L'USAP, honnêtement, ils n'ont plus grand-chose à craindre dans ce championnat où ils savent qu'ils sont déjà condamnés à la 13e place. Les Catalans, ils ont perdu cet objectif de rester invaincus jusqu'à la fin de saison à domicile.
Ça va être long quand même, Julien. Hein,
non, mais
début juin pour eux, comme ça, avec la pression inhérente à ce barrage.
C'est une vraie question de savoir comment ils vont gérer ça. J'en discutais avec Didier Nourault lundi avant le podcast où il me disait bah, ben pour Laurent Labitte, c'est assez simple. Il faut qu'il refasse une préparation physique de 2 mois pour les joueurs pour les amener au prime début du mois de juin. Et lui, sa stratégie, il m'avait dit, c'est on oublie les matchs à Aimé Giral et on essaie de gagner que les matchs à l'extérieur dans cette rivalité qu'ils pourront connaître sur le match de barrage en Pro D2 à l'extérieur. Ça peut être une stratégie, mais c'est vrai que la saison de Perpignan va être très longue. Moi, je me demande comment il va réussir à maintenir les joueurs sous pression. C'est vrai que donc, pour moi, les Catalans, ils n'ont plus grand-chose à perdre. Par contre, Toulon, qui sont aujourd'hui 11e au classement britannique, cher à nos amis montpellierains, avec seulement 5 points.
Classement britannique, je rappelle, on prend en compte les victoires à l'extérieur.
Ouais, on précise Didier Nourault, pour ceux qui n'ont pas eu le podcast de lundi, c'est un ancien entraîneur, et ancien joueur entraîneur, et président du syndicat Tech 15, syndicat des entraîneurs. Voilà.
Non, mais Toulon, c'est... Toulon, j'ai l'impression que c'est le match de la bascule pour eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils restent sur une très lourde défaite contre le Stade français à domicile. Ils ont 45 points aujourd'hui au classement. Ils sont à 7 points du 6e Clermont. Et qu'en cas de défaite à Aimé Giral demain après-midi ou aujourd'hui, si vous écoutez le podcast samedi, voilà, on se rappelle tout ce qui s'est passé à Toulon avec Pierre Mignoni. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé du podcast lundi. Cette défaite contre Clermont, ce match nul à Lyon, cette défaite contre le Stade français. On a l'impression que les Toulonnais, ils sont dans le dur. C'est la troisième plus mauvaise équipe depuis où on disait que les Montpellierains, sur les 10 derniers matchs, ça faisait partie des meilleurs avec Toulouse. Toulon est la troisième pire équipe avec Montauban et Bayonne. C'est ceux qui ont pris le moins de points sur les 10 dernières rencontres. Toulon s'effondre tout simplement au classement et c'est pas une terre très agréable, Perpignan, pour un déplacement. Ça peut être hostile pour les Toulonnais et attention en cas de défaite à ne pas finir cette saison de manière un peu catastrophique avec tout ce qui pourrait aller derrière.
Ils ont gagné qu'une fois à l'extérieur, c'était la première journée
à Montpellier.
Première
journée.
Ouais. Ils ont fait le match nul à Lyon il n'y a pas si longtemps. Mais Toulon n'a pas su s'exporter en fait cette saison et franchement je comprends pas.
Et puis ils avaient tant qu'ils étaient invaincus à domicile, invaincus à domicile, donc ils arrivaient à s'en sortir. Mais cette défaite contre Clermont en fait, elle a tout fait valser. Après quand tu vois l'équipe de Toulon, c'est vrai que c'est surprenant. Moi je les voyais concurrencer Toulouse et Bordeaux en début de saison et là ils sont surprenant, c'est très surprenant.
Il y avait une tendance depuis 2-3 ans. Quoi. Enfin, voilà, ouais. Toulon, une montée en puissance. Dernière, il y a une progression. Et là, c'est difficile hein, à diagnostiquer, en fait. Dans les dynamiques comme ça, pourquoi ça ne marche pas. Il y avait un recrutement, on l'a dit en début de saison, intéressant. Je ne sais pas ce que fait Zach Mercer. Parce qu'on pensait, on parlait de lien entre avant et trois quarts qu'il pouvait amener justement parce que Toulon était vu avec sa puissance mais manquait un petit peu. Même l'arrivée d'Albornoz hein, en 10, il faut lui laisser du temps. Mais voilà, c'est vraiment un mystère. Et comme tu dis, il faudrait pas. Enfin, s'il s'incline à Perpignan, parce que derrière il y a de la phase finale de Champions Cup, contre les Stormers à domicile.
Ouais, c'est ça. Contre les Stormers à domicile.
Contre les Stormers, ouais. Même s'ils vont, comme d'autres clubs à Montauban et que ça, voilà, ça sera peut-être une victoire assurée. Derrière, ils jouent Bayonne, Toulouse, le Racing, l'UBB. Ils finissent à Castres. Rien ne dit que Toulon sera dans les 6. Donc voilà, c'est extrêmement difficile.
C'est pour ça que je vous posais aussi la question. C'est un peu le match de la dernière chance pour eux pour pouvoir espérer accrocher la phase finale à la fin de la saison.
Comme le dit Wilfried, ils se sont exportés, ils n'ont pas gagné de la saison à l'extérieur. Donc leur chance, ça va être ce match à Montauban où ils vont pouvoir aller prendre des points. Mais comme tout le monde a pris des points à Montauban, en fait, ça s'annule.
Oui, la victoire à Montauban.
Les seuls qui en ont pas de points, c'est Montpellier, qui ont fait qu'un match nul. Toutes les équipes ont pris 5 points ou 4 points à Montauban. Donc dans le tableau de marche, pour Toulon, ça ne va même pas équilibrer les comptes. Donc là, s'ils veulent faire un coup à l'extérieur, c'est victoire impérative du côté d'Aimé Giral pour espérer réenclencher une dynamique, basculer sur la Coupe d'Europe et essayer de finir la saison du mieux possible. Parce que Toulon, pas dans les 6, c'est pas qualifié pour la Champions Cup. C'est un gros accident industriel quand même du côté de Toulon là.
Oui. Enfin, déjà, il faudrait une 8e place au minimum pour être en Champions Cup. Ce serait un coup d'arrêt. Surtout que, bon, Pierre Mignoni veut prendre un petit peu de recul par rapport au terrain. Il est en train de chercher un technicien un peu pour l'épauler. Voilà, il y a un virage à prendre à Toulon. On parle du stade, nouveau stade. Enfin voilà, c'est compliqué le top 14, hein, de rester tout en haut. On le disait, parlait de la pression de ses coachs.
C'est vrai qu'on voit les clubs les uns après les autres.
Quelque chose comme ça cette année.
Du mal à rester.
Quoi, tu vois. C'est on tombe des nues.
Il y a toujours
un
accident
peu,
par saison en fait. Non mais en fait, on a l'impression que chaque saison il y a un accident. C'était Montpellier il y a deux ans. Montpellier il y a deux ans qui avait fait ce match de barrage. Alors Toulon, ils en sont pas encore au stade du Stade Français de Montpellier. Mais dans la dynamique dont parlait Wilfried tout à l'heure, d'une équipe qui montait en puissance, qui avait fait ce quart de finale de Coupe d'Europe la saison dernière contre Toulouse, qui avait fait la demi-finale de Top 14, dans leur progression, ils espéraient peut-être faire un petit peu mieux encore, peut-être être qualifiés en demi-finale directe. Mais là, ils sont loin d'être dans les 8. Et le parcours en Coupe d'Europe sera aussi très compliqué pour eux, parce qu'après, ils se déplaceront à partir des quarts de finale.
Ouais.
Et pourtant, l'équipe annoncée encore, je vais vous annoncer l'équipe de Toulon, Priso, Lucchesi, Gigashvili en première ligne, Mezu, Alaï, Nouézé, la deuxième ligne, Ludlam, Coulon, Chiochvili, le numéro 8 géorgien, Ben White, Albornoz à la charnière, Ben White dont on a beaucoup parlé pendant le tour des Six Nations, Ferté, Tuikovu aux ailes, Frisch, Brex au centre, Antoine Frisch qui fait d'ailleurs son retour, Melvin Jamina à l'arrière qui fera son retour à Aimé Giral, et sur le banc, Damon, Gros, Javakia, Alagaou, Mercer, Daumont, Nonou, Sinclair. C'est quand même une équipe sur le papier qui n'est pas programmée pour être aujourd'hui 9e du top
14. Mais c'est un peu ce qu'on s'est dit à chaque fois sur les équipes précédentes qu'on a citées quand il y a eu des accidents de parcours, où sur le papier, ce n'est pas des équipes qui étaient censées se retrouver si bas dans le classement. Donc c'est vrai que tous les ans, on est confronté un peu à une équipe qui a du mal comme ça. Et cette année, c'est
la pression.
Et puis énormément
augmenté,
de pression.
Hein.
Bien sûr.
Ouais, le classement, les ceux qui sont devant, ils avancent quand même. T'as des équipes comme le Stade Français qui est venu gagner juste à Toulon, le Racing aussi qui progresse, mais qui est 7e avec 50 points. Donc ça va vite. Voilà, c'est vrai que t'as raison. Ce match à Perpignan, attention.
On n'a pas donné la semaine dernière. Hein.
Voilà. Il y avait le CBN la semaine dernière et maintenant il y a
le CBN de la semaine dernière.
Je vous régale, hein, auditeur, auditrice.
Ouais.
Allez, c'est
la compo catalane.
Une pétition pour demander.
Oui, la compo catalane qui doit être très bien.
La
vas-y,
compo
Julien.
Catalane. Tetrajvili, Ruiz, Ceccarelli, Yato Warion, l'ancien Toulonnais, X, Van Tonder, Oviedo en numéro 8, Ecochar, Dapileta à la charnière. Théo Forner, Lee Joseph sur les ailes, Mascarenc dont on vous avait parlé la semaine dernière, qui a été très bon d'ailleurs contre le Loup et Bouillir Roi Roi.
Se jette des fleurs.
Qui a marqué, exactement.
Non, je ne dirais pas que je vous avais dit de le suivre, mais quand même.
Non, un autre jeune que Laurent Labitte va lancer, mais je ne vous en parlerai pas, mais je vous le dis, c'est Mayron Fahy à l'arrière, la même génération que Mascarenc, qui va être titularisé à l'arrière du côté d'Aimé Giral. Et sur le banc, Malolo, Devaux, Tuilagi, Le Corvec, James Sol, Tommaso Allan qui fait son retour, Jordan Petaya et Nemo Rouel FC.
Ce qu'on disait en tout début de cette présentation de Perpignan-Toulon, Julien, tu disais que Perpignan n'avait plus grand-chose à jouer, mais malgré tout, est-ce que tu ne manques pas non plus d'engranger un peu de confiance en vue des phases finales qui vont arriver, enfin des barrages qui vont arriver pour sauver ta peau quand même en top 14 si tu continues de perdre.
C'est vraiment... Wilfried en parlait, la gestion de la fin de saison des Catalans qui sont assurés de terminer 13e aujourd'hui, il n'y a plus de mystère, on ne voit pas comment Montauban pourrait les revenir sur eux. C'est pour ça que Laurent Labitte avait mis cet objectif.
Et même comment il pourrait se sortir de cette 13e place.
Ouais, exactement. Laurent Labitte, c'est pour ça quand il est arrivé, il avait dit bon, je ne veux plus qu'on soit 14e fin janvier. Ils avaient finalement rempli assez vite cet objectif-là. Mais il avait aussi mis cet objectif de rester invaincu à Migiral pour garder ses joueurs sous tension. Et c'est vrai que cette défaite contre le Loup la semaine dernière casse un peu la dynamique des Catalans qu'ils avaient enclenchée depuis l'arrivée de Laurent Labitte malgré tout. Cette équipe va mieux, elle perd toute seule le match contre le Loup. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'ils trouvent un levier pour se motiver. Alors est-ce que la Coupe d'Europe la semaine prochaine du côté de Montpellier peut être un objectif pour les Catalans, de se dire on joue la compétition à fond en essayant d'aller le plus loin possible? Est-ce que, comme le disait Didier Nourot, c'est d'essayer d'aller faire des coups à l'extérieur si la fin de la saison? Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'ils trouvent un levier pour garder les joueurs sous pression, sous tension, pour ce match de barrage qui est programmé que le 13 juin. C'est ouais. encore dans 3 mois que les Catalans vont faire ce match où ils vont jouer la saison sur un seul match. Donc c'est vrai que la préparation
tellement affreux. Ils l'ont tellement dit, les Perpignanais, ces dernières années. J'ai bien placé, Julien, pour le savoir. Qui est tellement affreux à jouer, en plus. Actuellement, vécu avec Montpellier.
J'en suis à 4 d'affilée cette année. Ouais, ça va faire
T'es monsieur Access Match.
Je suis bien sur les matchs. Ouais, je suis très Access Match. Tu vois. Pas trop final top 14, très Access Match.
Ouais. Et Wilfried, il débarque pour la finale. Combats, hein.
Bah oui.
Star, évidemment. Voilà, donc Perpignan, Toulon à suivre à 16h35.
On lui prend son petit matériel, on lui met le casque sur les oreilles.
Tu seras gentil, merci.
On lui donne une pastille pour la gorge. Messieurs, quels sont vos matchs à suivre? Wilfried, je démarre avec toi. Parce que je
Bayonne
sens que ça va être une affiche intéressante.
Bayonne-La Rochelle, non, parce que c'est pareil, c'est point d'interrogation sur ce match qui va se jouer à, moi je dis à Noëta, hein, c'est le Real, je sais pas quoi, c'est-à-dire, bon, on va dire à Noëta, à Saint-Sébastien, 38 000 personnes, ça va normalement aller, ça va être à peu près rempli. Mais parce, enfin voilà, c'est deux équipes qu'ont connu un trou. Voilà. Qui n'ont pas les mêmes ambitions peut-être ces dernières années. Il y a quand même Bayonne demi-finaliste l'année dernière. Bon, on connaît la saison bayonnaise, hein, le bordel, le départ de Pata, les blessés, l'arrivée de Travers et cette défaite de suite, toute compétition confondue, avant de gagner à Montauban la semaine dernière. Et c'est pareil, Bayonne qui est avec 41 points, bon, qui est très loin, qui a... C'est mort, on va dire, hein, pour les 6 premières places. Hein, 11 points. 11 points. Donc, mais qui peut peut-être rêver d'aller accrocher 5 une 8e place.
Britannique.
Mais virez-le, c'est pas possible, on n'en peut plus.
Comme La Rochelle, d'ailleurs. Les deux, ils sont à 5 points en classement britannique.
Qui est à 4 points de la 8e place, donc qualificative à la Champions Cup. Et qui est à la 8e place avec 45 points? Eh bien, c'est La Rochelle. Bon, il y a Toulon, Lyon et Castres entre tous ces deux clubs. Mais voilà, Bayonne qui s'est relancé comme beaucoup de monde à Montauban, qui avait démarré presque sa grande saison l'année dernière au même endroit face au même adversaire. Il y avait eu un 37-7 l'année dernière. La Rochelle avait coulé à Noëta. Et ils avaient complètement lancé leur saison. Ils ont une grande série de victoires, donc ils espèrent vivre ce week-end et avec la même dynamique derrière, face à des Rochelais. Alors on ne sait plus trop quoi penser des Rochelais. Ouais, c'était un beau comme ça. Non mais qui reste sur une victoire à Castres. Ils ont gagné à Castres. Ils ont battu. Attention. Ouais. Il y a le aussi. Ils ont battu Pau quand même. Ils retrouvent des joueurs aussi tout simplement, hein, parce que entre 16 et 20 blessés toute l'année, là ils ont récupéré des joueurs. Des Rochelais, je vous l'annonce, qui mettent une grande priorité sur ce match. Et je vous l'annonce ici dans ce podcast. Qui vont bazarder la Coupe d'Europe derrière. Challenge, le match à Newcastle, on verra, mais je vous annonce une équipe très, 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 très modifiée, justement, quand on parlait de ça, du turnover Montpellier-Rhin. Et ben, on aura plus que ça, je pense, entre les poteaux. On aura plus que ça avec La Rochelle à Newcastle. Et je pense qu'ils ont raison.
Oui.
Aller batailler en Angleterre pour aller chercher un challenge. Bon, ça peut être sympa d'aller gagner, de se faire une aventure.
Non, mais là, challenge, c'est le championnat,
challenge
la priorité.
Cup, mais je pense qu'ils ont, voilà, s'ils ont encore un petit peu d'ambition. Donc,
c'est
voilà,
pour aller péter
le forfait
des mecs en plus.
De Grégory Aldrit. En plus, ouais. Donc, avec tous les blessés qu'ils ont eus. Donc voilà, à Noëta, ça a été particulier pour les Basques. Je parlais de ça, là, cette victoire contre La Rochelle 37-7. Ils ont aussi perdu un match contre Pau il y a 2 ans et contre Toulon. Rappelez-vous, ils s'étaient fait ouvrir 46-10 par
vrai.
Toulon. Voilà, donc je pense que le public va jouer un grand rôle. Et justement, ça met un petit peu de piment, d'interrogation face à ces Rochelais qu'on a vu pas génial. Samedi dernier face à Pau. Si on faisait le comparatif entre La Rochelle-Pau et les UBB Toulouse de dimanche soir,
fallait
du
se mouiller
de jeu et des envolées, fallait un peu se mouiller. Par contre, ils retrouvent, même si j'allais dire, ils retrouvent des bases, mais pas forcément sur la mêlée la touche, où ils se sont fait bousculer, mais voilà, en défense, ils ont été quand même assez féroces, ils ont fait plier les Palois comme ça, et avec beaucoup d'abnégation. Donc je pense qu'ils se sont fait du bien à Cas, ils se sont fait du bien contre Pau. Donc il y a une vraie. Une vraie interrogation à voir l'équipe de La Rochelle à Noëta.
Mais avec un capitaine forfait.
Oui, avec un capitaine abandonné. Pas la peine de chanter.
Oui, oui.
Avec Grégory Aldrit.
On n'allait pas chanter.
Qui est...
te laisse tout seul.
Oui, oui.
Ah merde.
Capitaine.
Oh mince. Qui est forfait. On a une équipe. Bon, alors, on va dire l'équipe bayonnaise en premier.
On avec choix, fait une semaine imitation, une semaine on chante. Ça dépend.
Voilà.
Je ne vous suis pas.
Voilà. J'espère que vous régalez, vous qui êtes en train de courir en ce moment, nous entendons comme ça chanter.
Non, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut le dire
on
aux auditeurs.
On pense à vous d'ailleurs, lâchez rien, on accélère.
On peut le dire aux auditeurs, oui. Maintenant, les imitations sont même à l'antenne directement. Quand on commente les matchs, si vous ne l'avez pas entendu, voilà. Julien Landry a eu l'occasion d'imiter Philippe Saint-André devant Philippe Saint-André la semaine dernière.
Ah bah oui, mais là,
par contre, si validé ça vous embête par, pas,
validé
la
par la
compo,
personne
bayonnaise.
Validé par la personne
l'intéressé
qui
en demande.
C'est pas mal, ouais, exactement, ouais, okay. C'est parfait.
Donc on a dit
vas-y,
en
oui,
première
Fred,
ligne, Bordelais, Bosch, Tatafou, c'était la première ligne de la semaine dernière à Montauban. Deuxième ligne avec Ituria qui revient titulaire avec Polos. Le sympathique deuxième ligne avec ça, j'adore. Avec ça. Il s'était fait des copains à Toulouse, là. Il avait voulu tuer Graou sur le terrain. Et derrière, il avait applaudi le public qu'il chambrait. Lucas Polo, c'est vraiment un personnage, deuxième ligne. Troisième ligne, Bruni, Chouznou. Ils ont mis Chouznou en 7. Je pense qu'avec Ituria, ils peuvent causer de gros problèmes à la touche rochelaise. Et Esteban Capilla, qui joue en 8 cette fois-ci, qui avait fait son retour à Montauban, et là, qui sera troisième ligne centre. Germain et. Tom Spring à l'ouverture, parce que là aussi, bon, je finis la compo et on va vous parler de l'absence du numéro 10 habituel de Bayonne. Avec Carreras à une aile, avec Tibérien à l'autre aile, au centre Twilagi et Makala, et à l'arrière Orabé, les remplaçants Martin, Castillon, Ariceta, Marchezin, Tilleul, Herbin Artergahaï, Martoc et Tagui. Il vous manque quelqu'un au numéro 10 à Bayonne.
Joris Segond.
Nos confrères de Sud-Ouest ont raconté cette semaine que Joris Segond avait fait une petite sortie la veille du match de Montauban, qui n'était pas passé. Et donc, on se prive du meilleur réalisateur. C'est un choix fort quand même, hein, avec l'enjeu du match. Mais voilà, il sera même pas sur la feuille. Il parlait de lui cette semaine remplaçant. Il n'est même pas sur la feuille, Joris Segond. Donc c'est Tom Spring qui sera numéro 10, la compo rochelaise, est-ce qu'elle
nous intéresse? Oui.
Oui, elle vous intéresse. Première ligne, Wardy, Soutidze, Féao, donc là, pas de Quentin Lespio. Deuxième ligne, Kanté Samba avec Will Skelton, titulaire, enfin, de retour. Il était remplaçant la semaine dernière contre Pau. On fait rentrer Judicael Cancorier, qui formera la troisième ligne avec Levani Botia, assez physique quand même. Et c'est Mathias Haddad qui jouera numéro 8. La charnière, Le Garec Astoy. Ozel, Leeds qui sera capitaine avec Jack Noël. J'adore Jack Noël, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Adrien Séguré, et j'adore ce type de joueur. Et Jules Favre au centre. Jules Favre qui revient aussi au centre. Et Niniashvili qui retrouve son poste d'arrière. Les remplaçants, Latou aussi de retour au talon. Kadouri, Wakani Saravi, que je ne connais pas très bien par
que
contre.
Que tu dis en deux fois. L'avoue.
Il faut le dire en deux fois, ça, quand on a du mal. Thomas Lavaux, Andy Timo, ce sera mon joueur à suivre, Andy Timo. Thomas Bergeon, Lagui Valla et Alexandre Kuntelia, l'autre pilier remplaçant. Et Julien, il en pense quoi de Bayonne, La Rochelle?
Non, je suis surpris de tous les changements côté bayonnais. J'ai l'impression que le nouveau manager va y mettre sa patte là. Capilla en 8,
directeur du rugby
Spring en 10. Ouais, le directeur du rugby Spring en 10, Tibérien à l'aile. J'ai l'impression qu'il veut marquer un peu genre je reprends le pouvoir, je vous montre ce que moi j'ai envie de faire. Ça me paraît surprenant, mais après peut-être qu'il nous donnera raison, mais voilà, je trouve qu'il y a plein de changements. Je suis surpris. Après, bon, Segond est puni, donc il a fallu retrouver un 10 et repenser au jeu. Mais
ah
oui, c'est un match.
Oui, Tom Spring passe en 10, il n'est plus ailier, donc il faut trouver un ailier.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup de changements. Oui, mais après, là, c'est. Autant pendant longtemps, on a dit que ce championnat était très serré. Autant j'ai l'impression là qu'il y a quand même un. Il y a deux niveaux qui se disputent. Et voilà, et je pense qu'on parlait tout à l'heure de Toulon, que c'est le match de la dernière chance. J'ai un peu l'impression que c'est le match de la dernière chance pour beaucoup d'équipes ce week-end et que si La Rochelle.
Bah, Bayonne, enfin même La Rochelle.
Et Bayonne, pareil.
Mais est-ce qu'ils y croient encore vraiment?
Oui, si La Rochelle s'incline, avec mais les si points Bayonne de retard. S'incline à domicile, voilà, oh, Bayonne. Ce week-end, tu peux te dire que tu peux éliminer presque Toulon et Bayonne de la course. Ça va être une élimination
pas
par l'arrière.
Bayonne au 8 peut-être.
Même au 8 peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Et que pendant longtemps, jusqu'à décembre, ça a été très serré ce championnat et on avait du mal à lire, savoir qui était dans les 6. Je trouve qu'aujourd'hui, il commence à se décanter et qu'on y voit plus clair. Et que je pense que les 7 premiers, Clermont, jusqu'à Clermont, ils se sont détachés. Et que, attention à Lyon, qui pourrait revenir, qui revient fort. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui les
43
7 premiers,
points pour Lyon.
Après,
hein.
Ouais,
enfin, ils sont à 9 points de Clermont.
C'est ça. Mais, donc ouais. Voilà, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer gros ce week-end pour la fin de la saison. Et que comme, même si en plus La Rochelle, il balance la Coupe d'Europe. Ouais, attention à des fins de saison qui peuvent être longues pour beaucoup de clubs de ce championnat quand même.
Effectivement. Bayonne-La Rochelle à Anoeta, ce sera à suivre sur RMC en intégralité en plus, parce qu'il n'y a pas de foot, vous savez, ce week-end, enfin pas de Ligue 1 en tout cas. Donc samedi soir, Nicolas Paolorsi et Clément Brossard auront carte blanche pour vous faire vivre ce match. Ça va être un régal. Bien sûr, grandiose. Julien, tu as choisi une autre affiche, celle de 21h05 de dimanche.
Oui, le Stade français Clermont, qui avait fait beaucoup causer au match aller. On se rappelle des déclarations de Morgan Parra après match, qui avait dit que le 16e homme avait eu de l'influence, que Christophe Uros avait dit aussi en avant là, c'est qu'il ne comprend rien au rugby. Je me rappelle même de la déclaration. Wilfried, tu voulais
dire. J'allais dire que Christophe Uros allait le dire. Mais...
Ah, voilà. Il est pas là, Christophe.
Il est pas là,
Christophe.
Et non, j'arrive. Attends, comprends bien quoi. Si on, là, si on avance, je les boule. Voilà.
Il y a une mise en scène. Non.
C'est de plus en plus le cousin de Christophe Urios. Hein.
Ouais, ouais, là, ça ressemblait au papa d'Anthony Gelon. Ça ressemblait au papa d'Anthony Gelon là. Christophe Uros qui avait dit d'ailleurs il y a quelques semaines, on va aller s'expliquer au Stade français. Donc je pense qu'il y a un peu de vengeance par rapport à ce qui s'est passé au match aller, un match qui s'était joué après la sirène, hein, victoire clermontoise. Et depuis, le Stade français va mieux. Le Stade français a un boulevard aujourd'hui presque même pour être deuxième en fin de saison de ce top 14, parce qu'ils auront ce déplacement à Montauban qui va leur rapporter des points, et que s'ils font le plein à domicile, à commencer donc par ce match contre Clermont dimanche soir, ils vont faire un grand pas. Ils ont fait une énorme performance du côté de Toulon la semaine dernière, et là pour le coup il y a vraiment des joueurs qui reviennent au premier plan. On pense évidemment à Carbonel qui fait une saison vraiment exceptionnelle, comme on l'avait rarement vu à ce niveau-là. Léo Barré, qui revient aussi à un très bon niveau à l'arrière. Ils ont leur paire de centre avec Ward, avec Vili, Marchant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont franchi un palier cette saison, ou en tout cas qui ont retrouvé leur niveau d'il y a 2 ans. On rappelle qu'ils avaient terminé deuxième déjà du top 14 à l'époque de Laurent Labitte, qu'ils avaient vécu une saison en enfer la saison dernière. Mais voilà, je trouve que le Stade français fait pas de bruit.
C'est vrai.
On parle d'ailleurs quasiment jamais du Stade français comme un vrai prétendant, mais ils
sauf
sont là. Oui, non, mais à juste titre.
Ouais, mais c'est yo-yo un peu leur saison. Ils n'ont jamais gagné plus de 3 matchs de suite. Je sais pas, il y a du potentiel. Ouais. Tu l'as dit, ils ont été impressionnants à Toulon, mais voilà, c'est très irrégulier à chaque fois. Donc c'est maintenant pour le Stade français. Après, c'est épais hein, quand même. Hein, ils n'ont pas changé ça depuis quelques saisons.
Non, mais après, devant, ils ont ce qui s'est. Et pourtant, pour moi, voir les Montpellierains, ils ont peut-être ce qui se fait de mieux en termes de mêlée devant, avec Meli Kidze, là, qui est le pilier droit énorme, Nicotera au talon, qui est un monstre, les frères Allo Emile, Briat. Je pense que Ker Barlow, vous le regrettez à La Rochelle, parce que je pense qu'il fait quand même beaucoup de bien aussi au Stade français. c'est vrai. Oui, mais Ker Barlow, je trouve qu'il apporte beaucoup à cette équipe avec Carbonel.
Oui, mais salarié cap, tu peux pas voir le Garek et Ker Barlow, c'est tout.
C'est vrai. Voilà, ça dépend dans quel club. Il y a des clubs où ils y arrivent. Mais...
Ah oui. Tiens.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais je trouve que voilà. Moi, je trouve que
Gabriel qui a annoncé blessé 6 semaines, par contre. Coup dur pour le Stade français. Gabriel, le capitaine, annoncé blessé 6 semaines.
Ouais, mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui fait pas de bruit. Comme dit Wilfried, ils sont peut-être dans le yo-yo, mais je trouve
qu'ils
sont
là. Il y a de la puissance, quoi. C'est des marchandes.
Ouais, et puis il y a du choix. Ils sont placés. Alors, ils sont aujourd'hui 5e avec 54 points, mais ils ont fait, eux, pour le coup, beaucoup de victoires à l'extérieur. C'est l'une des meilleures formations à l'extérieur du championnat, avec déjà 3 victoires, comme les Montpellierains. C'est Toulouse qui en a rapporté 4, mais voilà, ils sont déjà remportés 3 fois à l'extérieur.
Ouais. Ouais, et 20 points pour Toulouse à l'extérieur, 18 points pour Montpellier, le Stade français.
Exactement, et 15 pour Clermont. Et en sachant que le Stade français ne s'est pas déplacé à Montauban. Et que du coup, tu peux rajouter 5 points quasiment au Stade français dans leur tableau de marche à l'extérieur. Donc c'est pour ça que le Stade français,
ouais, je peut trouve compter
qu'ils
sur
sont
eux.
Dans le, ouais, ils sont dans le silence, ils font pas de bruit et que je pense qu'ils seront là en fin de saison. Et je rien que pour voir Christophe Furios, un peu le côté revanchard de la bagarre qu'il peut y avoir, ça peut être sympa. Alors évidemment, on n'a pas les compositions d'équipe,
pas petit
il y a pas
mal
de blessés. Ouais, il y a pas mal de blessés du côté de Clermont. Ils ont perdu Raka, ils ont perdu Tixeron, ils ont perdu Tolofua, Lanen. Mais bon, voilà, ils vont en mettre une équipe. Et puis, ils restent quand même malgré tout sur une défaite frustrante contre Montpellier la semaine dernière. On devrait partir avec Hamdaoui, Delgui, Loaola, Simone Juran pour les lignes de trois quarts. Plummer, Jono. Plummer qui sera sûrement l'un des joueurs révélation de la saison. Kremer, ouais. Soakula, Emery en troisième ligne. CT Simons en deuxième ligne. Oyovan, Massa, Lautrian pour la première ligne. Et pour les stades français, je vous ai quasiment donné la composition. En tout cas, les joueurs qui étaient pressentis pour jouer ce match-là dimanche soir, 21h05.
Très bien, 21h05. Ça sera à suivre aussi sur RMC. Mais alors cette fois-ci, ce ne sera pas en intégrale puisqu'il y aura également l'équipe de France de foot qui jouera face à la Colombie en même temps. Mais ne vous inquiétez pas. Vous vivrez quand même le match en ayant tous les essais qui vous seront comptés par Julien Richard. Voilà, pour les joueurs à suivre, messieurs, quels sont-ils ? Wilfried ?
Moi, je vous l'ai dit, c'est Andy Timo. Voilà, je me fais le relais de mon collègue Pierre Thévenet qui est pesté un petit peu contre le départ d'Andy Timo du Stade français. Parce qu'il a peu joué, hein. Bon, c'est vrai qu'il a été sur le circuit à 7, mais il a été sétiste, il est champion olympique avec l'équipe de France. Mais c'est 5 matchs avec le Stade français cette saison, 5 matchs la saison dernière, et voilà. Et La Rochelle le récupère en prêt. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent le garder ou s'il repartira au Stade français, mais je trouve que c'est un profil qui fait du bien à l'équipe rochelaise. Un profil explosif comme ça, ils n'en ont pas beaucoup. Je pense que le retour de la Guivala est très important aussi. Vous voyez que c'est, La Rochelle fait un peu monolithique, quoi, hein. C'est de la puissance et que c'est ces profils-là et qu'il a fait une très bonne rentrée face à la section paloise. Quelque chose, vraiment un gros physique. On ne sait pas trop d'ailleurs des fois où là il joue troisième ligne, mais il pourrait jouer à l'aile, quoi, hein. C'est un couteau suisse.
Très athlétique.
Ouais. Ouais, très athlétique en Itimo, donc là il va aller se frotter à Bayonne au stade d'Anoeta. Je trouve que c'est vraiment dans cette voilà, dans ce four, cette fournaise d'Anoeta, dans l'ambiance qu'il y aura. J'ai hâte de le voir aussi et de bien finir cette saison avec La Rochelle, jeune joueur. Je pense que c'est un énorme potentiel, et je trouve que c'est un joueur un peu excitant à voir, quoi. C'est avec gros travail, avec ou sans ballon, donc grosse caisse parce que c'est un sétis, donc voilà, je pense que derrière le vieux Botia, qui est toujours là d'ailleurs, hein, qui met toujours la tête dans les rues, qui est toujours le meilleur gratteur du top 14. Voilà, il a peut-être beaucoup à apprendre avec lui, quoi.
Très bien. Julien ?
Alors, Nicolas Paolorsi, notre cher, nous avait parlé d'Elija Ipsaen, le Bordelais, mais on va lui laisser la primeur de nous parler, troisième ligne centre, de nous parler de ce joueur-là prochainement. Non, je voulais vous parler de Mikeli Chiochvili. Ouais, Mikeli Chiochvili.
Ah, je l'ai vu passer, je savais que tu allais choisir un joueur comme ça.
Ouais.
Un poète.
Numéro 8, le numéro Toulon. 8 toulonnais, géorgien, espoir. Alors, j'ai eu la chance de le voir jouer avec les espoirs toulonnais la saison dernière. Et j'avais l'impression de voir Mamouka Gorgodze au milieu d'enfants. Mais c'était vraiment cette image-là. Non, mais c'était impressionnant. Il avait une puissance, une vitesse, et il avait passé l'après-midi avec des Montpellierains en drapeau accroché à son short pour essayer de le retenir parce qu'il était surpuissant. Et depuis quelques matchs, il est lancé par Toulon. On l'avait vu lors du match à Lyon où les Toulonnais avaient fait match nul. Il a joué 25 minutes contre le Stade français la semaine dernière, et il sera donc titularisé en numéro 8 demain après-midi ou cet après-midi du côté de Perpignan. Mais ça fait partie de la jeune génération toulonnaise qui a perdu la saison dernière en finale des championnats espoirs. Ils ont beaucoup de très très bons joueurs de cette génération-là. On pense à Kowi au centre qui a explosé un petit peu cette saison, même si je pense qu'il aurait aimé jouer plus. Et voilà, c'était les deux joueurs phares de cette génération toulonnaise, Kowi qui jouait 10 ou au centre, et donc Chiochvili, le numéro 8 géorgien, cette équipe toulonnaise qu'on va découvrir demain après-midi à Aimé Giral, mais qui va être qu'on va voir pendant de nombreuses années sur le plus du top 14.
Très bien.
Je sens qu'il avait joué juste, sinon il avait joué à La Rochelle avec l'équipe jeune alignée par Toulon, il me semble, ou je me trompe.
Cette année ou l'année dernière?
Cette année.
Non, cette année.
Cette année, il a pas joué.
Non, même pas.
Non, ah, oui, cette année, il a fait que 3 matchs. Il a fait que 3 matchs cette année. Là, J18, J19 et J20 demain. C'est son troisième.
Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
Troisième feuille de match demain. Mais voilà, ça fait partie des jeunes joueurs à fort potentiel toulonnais.
Très bien, à suivre évidemment. Vous l'aurez compris sur RMC, je l'ai répété à peu près 12 fois dans ce podcast. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve, messieurs, lundi. Bon week-end de Top 14 à tous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner évidemment pour ne rien manquer. Merci à tous.
Oui, envoyez-nous des photos quand vous courez, quand vous faites des choses comme ça. Quand vous, voilà. On écoute entre les poteaux.
Bien sûr.
On aime les imitations de Philippe Saint-André par Julien Landry.
Et en
aujourd'hui,
plus,
j'ai pas fait. Vous avez restez, vu, j'ai été
ouais, restez branchés, comme on dit. Parce qu'il en tient d'autres. J'ai découvert d'autres imitations de la part de Julien Landry. On les fera dans les semaines à venir. Donc, régal, comme toujours. Bon week-end à tous. Ciao.
Ciao.